And now, the news.
Avec In Facet Grunt, avec Gabriel, avec Das Critch et avec toujours le générique trop fort.
Google Stadium. Google abandonne Stadia, sa plateforme de cloud gaming, où l'on peut jouer à des jeux depuis n'importe quel navigateur Chrome, à condition d'avoir une super bande passante et une très bonne carte vidéo. C'est pas la première plateforme de cloud gaming à couler. C'est pas non plus la première technologie du géant à aller aussi vite au cimetière. Et c'est là où cette information devient passionnante. Chez Google, lancer un produit puis l'abandonner est totalement assumé en interne depuis au moins une bonne dizaine d'années. Vite lancer quelque chose, profiter de la pub et laisser tomber ou motiver la communauté de fans pour tenter de survivre. Au hasard, la messagerie Google+, le langage Dart, le framework Angular et on en passe. Et après, Google s'étonne que l'on ne fasse plus cycliquement « Yahoo !» lors des Google I.O. Et encore, ils remboursent aussi les jeux, quand même.
Pour Stadia, c'était un petit peu obligé, on ne pouvait pas relancer la communauté derrière. Le programme du Capitole du Libre 2022 est en ligne, une centaine de conférences et 25 ateliers, que du bonheur. Faites votre planning dès maintenant sur capitoleulibre.org. Je ne dis pas ça parce que je refais ma conférence que j'ai fait à Paris Web, ou plutôt que j'ai foiré à Paris Web. Le Capitole du Libre, c'est samedi 19 et dimanche 20 novembre à l'EN7 à Toulouse, c'est-à-dire à côté de la Halle au Grain. L'entrée est libre, venez découvrir la culture libre, nous on y sera. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous aborder.
Malwarebytes s'excuse officiellement pour un précédent communiqué de presse de fin octobre, communiqué sur les ransomware as a service, illustré par une photo d'une personne en hoodie, capuche rabaissée, faisant mine de pirater un ordinateur. L'éditeur de solutions de sécurisation s'excuse et indique que suite à un manque de vigilance interne, sa stricte politique contre l'usage de photos d'illustrations représentant un hacker en hoodie sur un laptop a été mise en défaut. Le stagiaire en communication a eu un entretien avec le service de ressources humaines sur sa faute. Malwarebytes rappelle que l'usage par la presse aussi bien généraliste que spécialisée de ce type de photos est de nature à propager des idées complètement fausses auprès d'un public crédule, prompt aux préjugés, susceptible de reprendre de mauvaises pratiques en sécurité informatique ou une discrimination vestimentaire.
Dis donc, Das Critch, ce serait pas toi qui, lors de la soirée Halloween organisée par l'émission Reggae du vendredi, était déguisé en hacker avec un hoodie à capuche? Ou c'était pour une pub?
Tout autre sujet maintenant. Canard PC, l'ultime migration, c'est avec ce titre que la revue des médias de l'INA analyse la triste et lente morte des magazines papier en presse informatique, la prolifération d'influenceurs sur Twitch, la tentative de sauvegarde de Prestalis par une ponction imposée sur les ventes de magazines et l'augmentation du prix du papier ne sont hélas pas les uniques raisons.
Vandalisme dans les réseaux télécoms. Un technicien fait grève dans un NRA au répartiteur de Pielin-le-Petit en Bretagne. Action syndicale menée en grimpant et ronronnant sur les pertes torsadées. Selon une directrice d'infrastructure sur place qui a bien voulu nous répondre, le chat Tabi n'a pas de collier, donc n'est pas identifié. Son opérateur favori est Orange, mais il a quitté les lieux au passage de l'équipe d'intervention, peut-être vers un autre FAI. Nous remercions Leila Costa Pereira d'avoir bien voulu nous répondre.
La carte vidéo Nvidia GeForce RTX 4090 OC est très puissante. Alors oui, OC veut dire overclockable. Le GPU AD102 peut aller de 2,23 GHz à 2,53 GHz et propose 7384 CUDA cores, 512 Tension cores et 128 RT cores. À côté, on trouve 24 Go de mémoire GDDR 6 fois, délivrant 21 GBd de capacité de transfert de mémoire. C'est ultra puissant, trop. Le GPU peut consommer 450 watts, a besoin de 3 gros ventilos pour refroidir. Il faut donc un connecteur d'alimentation à 16 broches, au moins 3 cartes, et non, pardon, depuis l'écriture de cette brève, au moins 9 cartes vidéo de ce modèle ont tout simplement fondu au niveau des connecteurs et des câbles d'alimentation. Le câble officiel est trop épais, trop rigide pour arriver à s'installer dans la plupart des boîtiers, donc probablement trop contraint à l'installation. Donc fil affaibli ou surface de contact des Molex insuffisante pour la puissante, donc surchauffe, donc Ajoutez le poids de la bête, environ celui d'une demi-bouteille de butane, et la carte mère doit avoir une drôle de forme. À 2400 euros la carte vidéo, ça fait très mal. Faut vraiment arrêter de jouer en ray tracing VR 4K 60 Hz, je pense.
Nvidia toujours, EVGA arrête les cartes graphiques. Aucune GeForce de ladite série 40 ne sera proposée. On va rappeler que Nvidia produit des cartes vidéo, mais aussi fournit des chipsets à une énorme foule d'intégrateurs de plus ou moins bonne qualité. Et EVGA est une marque ultra reconnue. Alors pourquoi arrêter ? Bien, EVGA remet en cause justement la double casquette de Nvidia. Le constructeur annonce le prix des puces du fondeur à ses intégrateurs au moment de leur annonce officielle. Et qui plus est, sur les cartes haut de gamme comme les 3080 et 3090, EVGA est obligé de les vendre à perte pour être dans la même gamme tarifaire que la marque Nvidia. Un mauvais partenaire pour le jeu en équipe, en somme.
Si vous vous souvenez de notre émission sur les couleurs, toujours disponible sur la page web cpu.pm/0041, vous vous souvenez qu'on a parlé du système couleur Pantone. Un système breveté qui permet de faire imprimer en Amérique du Sud ou fabriquer des t-shirts en Indonésie avec exactement la même couleur que celle que vous avez à l'écran. Eh bien, la collaboration entre Adobe et Pantone s'est interrompue après 30 années. Adobe a préféré supprimer les profils couleurs dans une mise à jour plutôt que de raquer. À noter que l'info était attendue depuis le début d'année, mais qu'elle a finalement été effective le 28 octobre, pile à temps pour Halloween. Désormais, si vous ouvrez un fichier Photoshop ou Illustrator avec n'importe quelle référence Pantone, le dessin est noir. Donc des millions de graphistes et d'industriels sont littéralement dans le noir. Désormais, pour avoir les couleurs Pantone, soit dans votre Photoshop local, soit en version en ligne, il vous faut payer $15 par mois pour un module qui débloque les couleurs. Il existe des workarounds pour les utilisateurs qui ont sous la main une plus vieille version. Mais cela vous donne une idée des conséquences que peuvent avoir un désaccord commercial entre deux références industrielles.
Ça, à mon avis, qui ont dû voir de toutes les couleurs.
Encore une bonne raison d'utiliser GIMP, logiciel open source.
Non, le problème, c'est la référence de couleur. Ils sont aussi concernés.
Oui, mais GIMP est open source. Alors, d'accord, ta gueule.
Photoshop 1 aussi. On a le code source de Photoshop qui est en Pascal, d'ailleurs, et qui est très bien écrit en 1987.
Document Foundation va faire payer 8,99€ pour installer la suite bureautique LibreOffice sur Mac. Mais attention, c'est uniquement si vous passez par l'App Store pour l'installer, au lieu d'aller directement sur le site. C'est une stratégie pour faire comprendre que le logiciel libre a besoin de votre contribution pour survivre. Si vous allez directement sur le site et que vous chargez l'archive, vous ne serez pas facturé. Mais quitte à l'utiliser tous les jours, pourquoi pas marquer sa reconnaissance à la communauté ? En tout cas, l'équipe marketing de la Document Foundation n'est pas dupe. Dit bien que c'est plus une expérimentation et qu'elle doute que la source de revenus soit conséquente. On rappellera pour l'histoire que LibreOffice est un fork en 2010 de OpenOffice qui fait un portage en licence open source par Sun Microsystems en 2001 de la suite StarOffice dont le développement avait commencé en 1985. Une suite bureautique complète, fonctionnelle, qui vit en licence open source depuis 20 ans et est toujours développée. C'est plutôt exceptionnel, mais il faut payer des développeurs chevronnés derrière pour ne pas tout péter. Alors, à votre bon cœur.
Pour information, le prix augmenté est maintenant à 10,99€. Du fait du cours d'échange entre dollars et euros, Apple a monté les tarifs.
Le TLD top level domaine .bugatti ferme. Ça s'appelle un faux départ.
Une zone à faible émission, ça dépend.
D'ailleurs, à ce sujet, quelqu'un des nouvelles du .sncf?
Attends, je cherche
un info suivante.
Fraude au CPF. Un organisme de formation bidon est condamné à verser 3,06 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations. Cela reste trop peu. Peut-être que de la prison ferme serait plus formateur.
Le tribunal administratif de Paris interdit à l'État d'utiliser l'expression « Health Data Hub », une décision obtenue par l'association Francophonie Avenir, car les trois termes « Health », Data et Hub sont anglophones. Suspense. Waouh, on ne savait pas du tout, merci. Bonne chance pour trouver une traduction qui va sembler pas trop pourrie, du genre concentrateur de données de santé, comme le suggère Next Impact. De suite, ça donne moins confiance, bizarrement.
Moment rétro-bricolage, vous prenez deux ordinateurs Commodore 64 dans leur jus de 1982, vous préchargez une application musicale spécifique dans chacun d'entre eux, et avec des ceintures en cuir, des bouts de bois, de la visserie, des disquettes mortes et du gros scotch noir, vous les transformez en accordéon. improbable, donc absolument génial. L'idée est que l'air brassé en jouant puisse moduler les niveaux sonores des deux chips audio SID pour ajouter une certaine touche. Un Commodore 64 pour la partie mélodique, un pour la ligne de basse. Par contre, l'engin est lourd, les claviers pas super ergonomiques, donc les mains fatiguent vite. Et on n'a toujours pas résolu la fameuse crampe dézygomatique de l'accordéoniste. Bah oui, parce qu'un accordéoniste, bah, il sourit tout le temps quand il joue.
Et ça sonne comment ?
Eh bien, le Commodore Dion, ça sonne comme ça.
Préparer la capture d'écran, je m'entendais pas à ça. Mais...
Je sais pas, ça change de ça quand même. Hein.
C'était Space. Merci.
Désolé.
On l'a complètement manqué, mais une vidéo de Tom Scott et de Who's the Boss est apparue en avril dernier pour prouver les dangers de tracking via Apple AirTag, où les deux youtubeurs font la course dans Londres. Si vous étiez en manque de royauté, bah vous avez une visite de Londres au pas de course, vraiment fun. Et la conclusion ? Pense à éteindre son propre iPhone pour ne pas faire relais. Après, la suite est assez glaçante sur le niveau de précision, même en courant.
On apprécie beaucoup Apple qui pense beaucoup à votre vie privée quand c'est à leur profit. Apple toujours, la directive imposant le chargeur universel pour tous les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques est approuvée par le Parlement européen. À partir de l'automne 2024, et si le texte n'est pas amendé d'ici là, tous les appareils électroniques nomades devront intégrer une prise de recharge au standard USB-C, y compris ceux d'Apple. Oui, désormais, c'est obligatoire. Jusqu'ici, Apple paie une surtaxe sur l'éco-participation, la D3E, pour imposer à ses clients une prise non standard, une pénalité d'un montant de 0,03€. Vous pouvez vérifier, référence EcoPart 406-36051, à comparer à la part pour la copie musicale privée, 15€ en moyenne par smartphone. On voit que c'est plus finalement Goldman qui gagne sur la planète en France.
Et Apple a déjà annoncé qu'ils allaient faire les prochains iPhones. L'iPhone 14 sera en USB-C.
Il fallait vraiment les pousser dans les escaliers.
Ouais. Hein.
Oui, pardon Gabriel.
Qwant Maps intègre désormais les informations de transport en commun et... On n'a jamais fait ce genre d'infos. Ah pardon, dans l'info, c'est que Qwant existe toujours. Pardon.
Et un moteur souverain.
Mais à quoi ressemble un cyberdeck ? Alors que Netflix a proposé l'excellente série animée Cyberpunk Edge Runner par le studio japonais d'animation Trigger, d'après le jeu Cyberpunk 2077 de CD Red Project, et qu'Amazon dégaine la série The Peripheral, d'après le roman de William Gibson, à quoi ressemblaient les cyberdecks dans les romans du dit roi du cyberpunk, tel qu'il les décrivait dans les années 1980 ? Avec un Raspberry Pi, une batterie de portable, un écran et de l'impression 3D, il y a des bricoleurs qui en ont fait leurs variations assez superbes. On vous invite à découvrir la galerie photo qu'on a découvert. Le lien est dans la page de l'émission cpu.pm/0197.
Fun fact, d'ailleurs, William Gibson n'a jamais eu d'ordinateur avant 1995. Il a tout écrit sur une machine à écrire mécanique. Mozart en vert miroir, Mona Lisa s'éclate et tout ça. C'est assez surprenant. Pardon, excusez-moi, on est encore dans les news. Microsoft a commissionné une étude sur les pratiques du travail hors bureau et où il en ressort que le travail hybride, tout comme le télétravail, ben ça fonctionne si les salariés ne sont pas surveillés. Ne sont pas surveillés, ne sont pas fliqués. C'est une étude qui a été faite en analysant le comportement de 20 000 utilisateurs de Microsoft 365 dans 11 pays. Ouais, attends, donc dire que fliquer les salariés contre-productifs en faisant du profilage comportemental et psychologique d'utilisateurs de vos services AS à leur insu, comment dire ? Ouais, il y a quand même un petit peu un très gros malaise.
Amazon's Astro Robot can now detect your pay. Donc si je comprends bien, le petit robot d'Amazon peut détecter vos P. P explosif, P subtil, P de curé, P de non. Non, ça parle pas de P mais de pet.
Ouais.
D'animaux domestiques. Ah, c'est moins drôle du coup.
Ouais, super.